Et pour récapituler tout cela, je crois que nous pouvons revenir à l'intitulé du thème général, c'est la Kabbalah et le judaïsme comme religion. Je crois que ces trois mots doivent être identifiés. La Kabbalah, c'est le judaïsme lui-même, et le judaïsme religieux, c'est le judaïsme lui-même. Encore une fois, à l'échelle individuelle, toutes les manières d'être juif sont possibles, dans la mesure où il y a relation en quoi que ce soit à l'histoire de ce peuple. Et je voudrais être très clair, ce n'est pas du tout de l'exposition pédagogique, c'est l'analyse du sujet, mais ceci ne peut être compris qu'au bénéfice de la distinction entre l'être collectif qui traverse les siècles, Israël de tout temps et de tout endroit, et d'autre part, l'être individuel et sa manière d'exprimer, sa manière de réaliser dans son équation personnelle cet être collectif dont la Kabbalah parle. Comme la Bible, comme la prophétie biblique, la Kabbalah ne parle jamais à l'individu comme individu, mais à l'individu en tant qu'il est un individu d'une collectivité. Et sans doute, nous sommes en un temps culturel où ceci tend à être de plus en plus exprimé, perçu, que le peuple juif, ce n'est pas simplement un agglomérat d'individus, mais que c'est aussi une collectivité, celle dont la Bible a parlé et qu'elle a nommée Israël. Voici grosso modo les trois analyses que je voulais vous présenter en introduction à cette clôture de séminaire et en vous donnant la parole. Vous avez donc. Alors, écoutez, comme je ne vois pas très facilement, je vais commencer par voir les mains qui se lèvent au fond de la salle. Et je vous demanderai, vous avez le temps que vous voulez, puisque c'est la fin du séminaire, mais je vous demande d'être quand même bref dans vos questions, et que ce soit des questions essentiellement. Ken.
Lundi soir, tu nous as dit que le monde avait été créé ainsi. Est-ce qu'il a été créé ainsi, de par la volonté absolue du Créateur, et pourquoi? Ou bien, est-ce que cette volonté, cette programmation, a été fléchie, et pourquoi?
A été
fléchie. Échanger.
Oui.
Et pourquoi ?
Bon, je pense que la question est très claire, je n'ai donc pas à l'interpréter. Pour ceux en tout cas qui ont assisté aux analyses de lundi soir, je rappelle seulement que l'expression biblique qui est traduite par cette expression, et il en fut ainsi dans le récit de ce qu'on appelle la création du monde, qui est en réalité le récit des six jours du commencement. La création, c'est l'instant du commencement. Et cette expression en français, habituellement dans les traductions, c'est « et il en fut ainsi ». Dans le français contemporain, cela signifie en général « et il a eu lieu, il y a eu lieu exactement ce que le Créateur voulait ». Et ta question procède de cette habitude que nous avons prise, à cause de d'autres théologies peut-être, de considérer que le monde est exactement comme son Créateur a voulu le créer. Or, cela n'est pas du tout ainsi. Je m'excuse du terme, pour la tradition juive elle-même. Je vais d'abord citer l'expression en hébreu. L'expression en hébreu, c'est « vayhi chen ». Or, le mot « chen » signifie « ainsi », mais dans son sens originel, « comme ». Je crois, dans mes propres études, je crois que c'est le terme latin « quasi » qui exprime le mieux l'idée que je voudrais exprimer. Et ça signifie « ça a été à peu près comme ça ». Ça a été comme, quasi. Il n'en fut qu'ainsi, il faudrait dire peut-être en français moderne. Or, nous avons tellement été habitués à l'idée de la volonté du Créateur en tant que Créateur, comme un fiat, comme disaient les Latins, comme un diktat, comme on dit aujourd'hui, parce que c'est français diktat. En tout cas, vous comprenez, comme quelque chose d'imposé, et c'est comme ça que ça sera et pas autrement. Nous avons été tellement habitués à cette idée d'un Dieu qui impose au lieu de ce que dit le texte, qui propose, que nous ne comprenons plus la question elle-même, c'est-à-dire le décalage entre l'état du monde et l'idée que nous nous ferions d'un monde qui serait à la hauteur d'un Dieu. C'est bien ça ta question. Et donc, si c'est suffisamment clair, la réponse vient d'elle-même. C'est donc que le Créateur a un projet de son monde qui lui est parfait, mais c'est le projet du monde. C'est ce qu'on appelle en hébreu, dans le vocabulaire kabbaliste, « marchevet abria ». le projet de ce que doit être le monde créé. Mais le monde créé est donné à une histoire qu'il doit faire par lui-même, Asher bara Elohim la'asot, qu'il doit faire par lui-même. Et c'est pourquoi le texte du récit du commencement, nous dit très directement qu'au début c'était le chaos. Pendant les 6 jours qui sont décrits par ce récit, c'est Dieu lui-même qui organise ce chaos, en laissant une autonomie suffisante, disons, à la création, à la créature, et quand elle est suffisamment aménagée pour que le monde devienne habitable par l'homme, Dieu se cache, c'est le 7e jour, le Shabbat, et l'histoire des hommes commence, prenant le relais de ce Asher bara Elohim la'asot. Or, quand on a projeté sur les contenus de la tradition juive et de la Bible elle-même, des mentalités religieuses procédant de toute autre intuition que l'intuition hébraïque, les Juifs eux-mêmes ont fini, ne lisant leur Bible qu'en traduction, à se familiariser tellement avec ces lectures autres qu'ils ont fini par projeter eux-mêmes sur l'hébreu de leurs ancêtres les lectures autres. C'est un peu ce qui est arrivé. Et je crois que ta question est non seulement à sa place, mais très importante. Elle révèle une fois de plus à quel point nous devons nous hébraïser pour comprendre la Bible. Je crois que quelle que soit l'exactitude scientifique ou dite scientifique de toute traduction, le seul fait qu'elle emploie un autre véhicule que le véhicule que la révélation elle-même a choisi, déjà va nous alerter. Et bien sûr, les traductions, cela peut nous aider à arriver au texte originel. Mais je vous citerai, mais vous devinez la suite, mais ça ne remplace pas le texte originel, évidemment. Je vous citerai un auteur qui s'appelle Toynbee, dont vous devez connaître le nom, et qui n'est pas connu pour son amour des Juifs et du judaïsme, et d'ailleurs, mais qui a cependant écrit « Le monde croit qu'il a lu la Bible, en réalité il n'a lu que des traductions de la Bible ». Et je crois que peut-être le temps est venu que le monde lise enfin la Bible, et en principe ça devrait commencer par les Juifs. Je ne sais pas si j'ai... en tout cas, dans le fond de ta question, c'est la notion de l'autonomie de la créature qui fonde l'histoire, qui fonde la morale, qui est centrale dans le récit biblique et qui est complètement mise entre parenthèses dans cette mentalité qui voit dans le Dieu créateur dont elle parle je ne sais quel dictateur qui impose au monde d'être imparfait. Dieu n'impose pas au monde d'être imparfait, il le met dans une histoire qui va vers la perfection. C'est différent. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bien. La deuxième question était par là et ensuite je vous réponds.
Science de la prière, est-ce qu'il y a une technique de la prière, et quel est l'objectif spécifique de la science de la prière, s'il y a une technique?
Écoutez, cette science est tellement minutieuse, considérable, qu'il faut des années et des années pour en parler avant de l'apprendre. Mais elle existe, c'est la Kabbalah, et finalement les préfaces sur les problèmes métaphysiques que nous pouvons avoir en séminaire furtif à Rachid ne sont que des préfaces, et finalement lorsqu'on étudie vraiment la Kabbalah, on s'aperçoit que cela commence à devenir sérieux lorsqu'il s'agit des kavanot de la tfila, c'est-à-dire des intentions de prière qui tiennent compte de tous les préalables cosmologiques, métaphysiques, etc., parce qu'il s'agit de la créature dans le monde parlant au créateur des mondes. Il faut donc d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le monde et qui est ce créateur à qui l'on s'adresse. Mais surtout, ce que j'ai voulu dire ce soir, vous l'avez deviné, c'est que c'est sérieux qu'on s'adresse à quelqu'un. En tout cas, c'est le sérieux de la Kabbalah elle-même. Et donc, il s'agit... Une minute, David. Il s'agit bien d'une science, en tant que connaissance, et qui implique aussi, pour savoir la pratiquer, toute une technique de la prière. Comme nous ne savons plus prier avec ces intentions de prière qui s'appellent les kavanot, alors la tradition nous a donné une kavana récapitulative, globale, avant toute prière, où nous disons à peu près ceci, je ne vous traduirai pas littéralement, ça nous prendrait trop de temps, compte, fais comme si nous savons mettre les intentions de prière, et sache que si nous le savions, nous les mettrions. Vous voyez à quel point nous sommes tombés. C'est le Meshé Mirhout Kouchavrihou qui commence chaque prière. Avant de commencer chaque office, le Chazal, le Shalehar Tzibour, dit une formule dont l'essentiel du sens est ceci, nous ne savons plus, mais fais comme si nous savions. Parce que si nous savions, nous le ferions. admettons. Et dans cette formule, il y a une expression très importante, au nom de tout Israël. Et de nouveau, Béchem Kol Israël. Et de nouveau, nous retrouvons cette relation à l'être collectif d'Israël qui est très importante, qui est très importante pour toute tradition, mais aussi dans notre cas pour la tradition d'Israël. Je crois qu'il est important de réfléchir à cela. Et nous devons cette précision de la distinction entre le klal, l'être collectif, et le prat, l'être individuel, en beaucoup de sujets et pour beaucoup de thèmes, à l'enseignement du Rav Kook lui-même. Et c'est le fait lui-même de la réapparition du klal de notre temps impliqué, exigé que la Kabbalah dise ce qu'elle avait à dire sur la différence entre le klal et le prat. Et je crois qu'il est très important d'y réfléchir. Indépendamment de la formule générale, nous ne savons plus. En attendant d'apprendre, en attendant de savoir, en attendant cette technique de familiarité qui nous permettrait de faire comme si. Et donc il y a là une exigence de bonne foi, de sincérité qui n'est pas simple. Cette formule ne peut pas être dite de façon allusive. Ou bien c'est sincère, ou bien c'est pas sincère. Okay? En général, c'est sincère d'ailleurs. Et la formule surtout de Béchem Kol Israël, au nom de tout Israël. Le judaïsme n'aime pas du tout que l'individu se mette à la place du collectif, que l'individu se mette en avant. C'est déjà l'hérésie de la médiation. Vous savez cela. Cela est important. Je voulais ajouter quelque chose à ce sujet. Ça m'a échappé, mais peut-être que ça me reviendra. Alors, la question suivante était celle de monsieur, je crois. Est-ce que j'ai suffisamment répondu? Ah oui, voici ce que je voulais raconter. J'ai eu un professeur de prière, de chant de la prière, qui s'appelait Léon Algazi, Romain Ibracha, ce nom vous dit encore quelque chose? Léon Algazi. Qui nous avait une fois raconté la chose suivante. Je crois que je l'ai raconté dans un des séminaires, d'ailleurs, il y a quelques années, peut-être. C'est-à-dire, on lui a souvent posé la question, mais nous ne savons pas l'hébreu. Et puis, toujours répéter la même chose, des choses qu'on ne comprend pas, à quoi ça sert? Vous comprenez un peu la question. Okay? Il aurait répondu, tu es un très grand musicien. Alors, vous savez, avant de réussir une symphonie, il faut faire des gammes. Et le jour où on réussit la symphonie, toutes les gammes ont leur sens et leur réponse, et sont entendues. Et en hébreu, gamme, ça veut dire ça aussi, même. Ça aussi, c'est la prière. Ça va un peu dans ce sens. Bien, alors vous avez la parole, très rapidement. Ah oui, et après David. Okay.
Le fait de dire
qu'il
en fait ainsi, expliquerait donc le mal du monde.
Enfin, c'est relié, tout un séminaire pour ça. Hein.
Oui. Et le fait de reconstituer les barres brisées remédierait.
Il en fut ainsi, bien sûr.
Oui,
absolument.
Mais comment, par ce biais-là, s'il y a pari entre Téhéran, ça pourrait. S'il y a un pari
entre
Dieu et l'homme.
Non, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire pari.
De réussir le cas, de réussir.
Oui, ce n'est pas du tout un pari. Hein. En jeu, je veux bien. Top, continue.
Oui. Comment l'intention de Dieu de faire le monde programmé de la nature, pourrait modifier la manière dont la nature se fait pour
arriver à être perpétué. Oui, je comprends. Je crois comprendre. Est-ce que vous avez suivi le séminaire?
Le soir.
Ah, pas le matin, oui. Bien, je n'ai jamais le temps de revenir sur ces analyses. Nous en avons eu quelques-unes qui concernent votre question. Alors, j'ajouterai autrement, pour y répondre, un principe que nous n'avons pas encore étudié. C'est que, dans la Kabbalah, nous étudions que le projet de Dieu, c'est-à-dire le monde parfait, parenthèse pour les hébraïsants qui ont suivi les cours du matin, que l'on appelle Olam HaBriya, Marché Bet HaBriya, le Olam de Bina, okay, se réalisera qu'on le veuille ou pas. Il a décidé en le créant. Et le monde deviendra parfait, ce que nous appelons Olam HaBa. Si j'ose dire en français, le Olam là-bas. Alors que nous sommes dans l'ici-bas. Et ça veut dire, si les choses sont sérieuses, bien évidemment, c'est leur cohérence propre. Le Créateur a décidé de créer un monde dans son projet de création. Il s'agit d'un monde parfait, c'est l'objet de l'espérance des croyants, et c'est l'objet de certitude des kabbalistes, qui savent. Et chacun... Non, j'enlève la phrase qui a commencé. Et donc, ça se réalisera que nous ne voulions pas. À ce niveau, notre liberté ne joue pas. Un temps nous est donné, à nous, le monde, les mondes, pour y arriver. Et nous avons deux voies que nous pouvons choisir. Ou la voie de l'existence pure et simple, c'est-à-dire impure et pas très simple, qui est pleine de ce qu'on appelle en hébreu « issurim », et tous les hommes la vivent, quelle que soit la tradition à laquelle ils se rattachent, et s'ils ont ou pas de tradition, c'est l'existence. Et, ou bien nous avons la voie de la Torah et des Mitzvot, qui est la voie d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, que ce monde d'ainsi arrivera à se surhausser au monde de Marché Vatabria, du projet du Créateur, c'est la foi du judaïsme lui-même, de la Bible elle-même et de tous les prophètes, relisez la Bible. Et par conséquent, encore une fois, si je m'en excuse, ce que la Bible nous raconte, c'est le commencement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle commence. Au commencement. Et il y a un midrash qui explique que le mot Bereshit contraint le commencement, et à pour base le mot Reshit qui signifie le commencement, qui est formé des mêmes lettres que le mot Sheherit qui signifie le reste, ce que nous trouverons à la fin. Est-ce que j'ai suffisamment répondu? T'écoute.
Tout cela.
Regardez, quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ça implique la jungle, les insectes, les araignées, les crabes, tout ce que... Seulement il faut étudier. Mais pour donner une réponse formelle à la question formelle, c'est au même niveau. C'est-à-dire, il faut prendre ce livre au sérieux et en tirer les conséquences d'assaise de l'intelligence et de la pensée jusqu'au bout. Et donc, ça prend de l'étude, ça prend du temps, mais c'est sérieux. Et j'avais dit souvent dans ces conférences de ce séminaire que la foi juive est très simple à définir, bien qu'elle ne soit pas simple à vivre, c'est une foi très fine, très difficile, parce qu'elle doit être extrêmement lucide et en même temps extrêmement espérancielle, si je veux dire, les deux à la fois. Cela n'empêche absolument pas l'homme de l'espérance que je vous décris de savoir ce qui se passe dans la jungle, les insectes, les crabes, les araignées, etc. C'est ensemble. Je ne sais pas comment dire en hébreu d'abord, « afalpichen ». Tout ceci étant entendu, puisque la Bible commence en disant « Il s'agit du Créateur unique, de tous les univers et de toutes ses créatures, mais rachem al-kol ha-beriot, les insectes, les araignées y compris. » Alors il faut une assaise de l'intelligence qui n'est pas simple. Il ne peut pas s'agir de la foi, disons du charbonnier, mais arriver à l'âge de la sagesse. C'est la raison pour laquelle l'homme est situé dans ce temps de sa propre durée où il y a une enfance, une initiation, un apprentissage, un mûrissement, un grandissement, la maturité, la sagesse. Et vous connaissez les textes traditionnels qui parlent jusqu'à 70 ans, 80 ans et au-delà. Vous connaissez tout. Bien, David, oui.
Perché a Vod, molto a Moshe chi vede Torah al Sinai, un sarà di
Yoshua,
eccetera.
Jusqu'à toi.
Je voudrais que vous essayez d'expliquer entre le problème de Kabbalah, Machara et Magana. Parce qu'on dit Magana Torah, là on parle de qui vede la Torah et on dit Moshe la Torah.
Bon, c'est trois termes, il y a trois questions. Okay? C'est Kabbalah, Masora et Matana. Alors, je traduis d'abord. Il s'agit d'une Mishnah des Pirkei Avot. C'est une Mishnah, c'est un des paragraphes de base des traités du Talmud qu'étudie la Gemara. Ensemble, la Gemara et la Mishnah, c'est le Talmud. Du traité qui s'appelle Avot. Et qu'on traduit en français les maximes des pères, je suppose le principe des pères, et qui est le traité de morale pratique qui est donné au juge au tribunal, et que nous prenons comme modèle pour la vie quotidienne. Et la première Mishnah retrace cette retransmission de la révélation à travers Moïse. Et la Mishnah commence ainsi, Moshe kibel Torah mi-Sinaï. Moïse a reçu la Torah du Sinaï. Or, il me faudrait un nombre considérable d'heures pour expliquer ne serait-ce que ces trois mots. Et je vais donc, considérablement résumer tout cela. Parce que la deuxième phrase dit « Umsara » et j'aborde le deuxième mot, le premier étant « Kabbalah », mon cher a reçu la Torah du Sinaï, « Umsara l'Yoshua ». Et la deuxième partie de la formule dit « et qu'il a transmise à Josué ». En réalité, il a transmise à tout le peuple. Et que Josué l'a transmise aux prophètes, les prophètes aux anciens, et les anciens l'ont transmise « Uzkenim besaruha l'anshek neset agadona » l'ont transmise aux hommes de la grande assemblée, qui sont les fondateurs, dont les disciples sont les fondateurs de la Mishnah, et ensuite il y a la suite que je vous ai décrite tout à l'heure. C'est pas la peine de prendre des notes, c'est vertigineux comme espace de temps. Jusqu'à nous. Et comment se fait-il donc qu'on nous dise que Moïse a reçu la Torah du Sinaï et l'a transmise à Josué, qu'il a transmise aux prophètes et les autres, mais tout Israël a reçu la Torah. Non, un texte très important dans le Talmud qui explique comment Moïse transmettait la Torah à tout le peuple, je l'avais cité une fois je crois, il l'enseignait d'abord à Aaron, pas du tout à Josué, une première fois. Ensuite, les fils d'Aaron venaient, il l'enseignait une deuxième fois aux fils d'Aaron, et Aaron entendait comment Moïse enseignait aux fils d'Aaron. Ensuite, il faisait venir les chefs des tribus, et les fils d'Aaron et Aaron entendaient comment Moïse enseignait la même Torah aux chefs des tribus. Puis de proche en proche, tout le peuple. C'était le vrai maître. Et comment se fait-il que notre Mishnah nous dise qu'il l'a transmise à Josué ? Et donc il s'agit d'autre chose que nous croyons habituellement dans cette Mishnah. Et ça ne veut pas dire que les commentaires habituels que vous lisez sont faux. Pas du tout. Mais ils ne répondent pas à notre question. Et d'autre part, le troisième mot dont je parlais, « Moshe kibel Torah mi-Sinaï », donc le quatrième, c'est la troisième expression, ne se traduit pas littéralement comme on traduit habituellement. Il n'y a pas écrit « Moïse a reçu la Torah du Sinaï » puisque Moïse a reçu la Torah de Dieu au Sinaï. Vous voyez la différence ? C'est comme s'il y avait écrit que c'est le Sinaï qui a donné la Torah à Moïse. Il y a beaucoup de commentaires d'ailleurs, pas du tout marginaux, qui s'appuient sur cette lecture. Et donc tout cela n'est pas simple. En fait, il faudrait lire un peu autrement que Moïse a reçu la Torah à partir du Sinaï. Entendez en hébreu, mi-Sinaï, voilà, à partir du Sinaï. Quand vous lisez attentivement le chapitre 19 de l'Exode, vous verrez que ce que nous appelons la révélation du Sinaï, et qui est connu habituellement comme la révélation des 10 commandements, qui implique toute la Torah, je dis bien qui implique toute la Torah, il y a un des deux textes des 10 commandements où il y a 613 lettres, comme par hasard, puisqu'il y a 613 commandements dans la Torah. En réalité, c'est 620 parce qu'il y a aussi 7 des commandements de Noachide. Ça fait donc 620, mais 613 plus 7, ça fait 620. Et Keter, la couronne, ça fait 620. Okay. Et il y a donc apparemment une contradiction entre la lecture habituelle, selon laquelle Moïse a transmis la Torah à tout le peuple, et la lecture de la Mishnah, eh bien le chapitre 19 de l'Exode l'explique, lisez-le attentivement comme il est écrit. Quand était ce qui s'est passé au Sinaï, c'est un peu autre chose. C'était la nécessité d'habiliter la fonction de Moïse comme prophète. Et, je vais vous l'expliquer brièvement, c'est important, vous le lirez tout le long du chapitre 19, mais attentivement. Et alors si déjà c'était nécessaire d'habiliter la fonction de Moïse comme prophète, et c'est pourquoi Dieu se révèle à tout le peuple qui n'en était pas encore capable, puisqu'il avait besoin d'un prophète. Ce n'est qu'à la fin des temps que la sagesse recouvrira le monde comme l'eau recouvre le fond des mers, verset d'Isaïe, à la fin des temps. Mais en ce temps-là, le peuple a besoin d'un Moïse, et comment se fait-il que la Torah soit donnée à tout le peuple? C'était donc qu'il y avait un autre objet. C'était habiliter Moïse comme celui qui donne la Torah. Que s'était-il passé, je vous dis très brièvement, jusqu'à Moïse et la Torah, le peuple avait une tradition, tout le peuple, sauf la tribu de Lévi, qui était la tribu des initiés, avait une tradition qui était la foi d'Israël avant Moïse, la promesse du Dieu des patriarches que l'exil prendrait fin et qu'on rentrerait au pays des pères. C'était tout le judaïsme, entre guillemets, des Hébreux, nos ancêtres, avant Moïse. Sauf la tribu de Lévi, qui savait déjà. Et voilà qu'au pied du Sinaï, Moïse est chargé de transmettre un commandement qui n'est pas encore les 10 commandements, et qui est « Et vous serez pour moi peuple de prêtres et nation sainte. » Changement de programme. Jusque-là, c'est le sionisme simple. On finit l'exil, on rentre chez soi. Et voilà que ce même Moïse, qui c'était la foi des enfants des patriarches, et voilà que ce même Moïse, qui a réussi l'accomplissement de la promesse aux patriarches, les amène au Sinaï et leur dit « Minute, il y a une Torah à la clé. » Alors, réaction du peuple, « Tout ce que Dieu dira, nous ferons. » Vous entendez que j'ai déjà changé le sens du même verset. « Tout ce que Dieu dira, nous ferons. » Pas ce que tu me dis, toi, Moïse. Nouveau Testament, j'ai jamais entendu parler de ça. La Torah. Et donc, vous verrez le verset suivant, où Dieu dit « S'il en est ainsi, je descendrai sur la montagne pour qu'ils m'entendent te parler, afin que même en toi ils aient foi à jamais. » C'est clair. Ça veut dire que l'objet, et il n'y a pas encore le 10 commandements, l'objet de la révélation au Sinaï, c'est habiliter Moïse comme prophète de la Torah, ce qui était apparemment un changement de programme pour la foi des descendants des patriarches en Égypte, sauf la tribu de Lévi, et quelques initiés dans chaque tribu. C'est suffisamment clair, ce que je dis. Et donc notre formule devient tout à fait autrement. Ceci, Moïse a été habilité à donner la Torah à partir du Sinaï, et après lui Josué, et après lui les prophètes. Vous avez compris la différence. Voilà, je crois que je vous ai suffisamment répondu. Bien, s'il y a encore une autre question, nous allons la voir et peut-être arrêter là. Oui. Oui, très bien. Cette question a été déjà posée lundi soir. Je vous réponds. Cette question a été déjà posée par mademoiselle, je crois, lundi soir, qui me l'avait d'ailleurs posée l'année dernière. Lorsque nous avons parlé de Job à propos de Maïmonide. Est-ce que c'est exact? Oui, très bien. Mais j'entends bien que la question se pose. Elle a été aussi, par allusion, posée par monsieur. Et encore une fois, parce que nous ne sommes pas encore capables, sans doute, de maîtriser suffisamment notre propre monde et notre propre être et notre propre identité. Je ne voudrais pas dire des choses banales, qu'il s'agit d'un niveau de sagesse, ce qui est d'ailleurs indéniable. Mais si il y a autonomie du créé, et ça devient en fin de compte la nature, et si la nature fonctionne, et elle fonctionne, alors tout cela est possible. Mais je ne sais pas si vous étiez là hier soir, je recite l'enseignement du Rav Nachman, il donne bien à sa place. Il y a trois niveaux, trois origines différentes à l'origine du mal, et il y a quand même collaboration entre elles. Il y a le fait que le monde devait créer, alors donc la nécessité du néant avant le monde, et le mal d'être qui vient du néant, qui vient de ce que notre être vient du néant, en tant que créature, pèse énormément sur le problème que vous posez. C'est cela qu'il faut maîtriser. Cela va jusqu'à où le fait que notre monde vienne du néant pour pouvoir être, c'est-à-dire être différent du divin à l'origine. Il y a deuxièmement l'impitoyableté de ce que nous appelons la midata din lorsqu'elle est séparée des autres midot, des lois de la nature. Et il y a d'autre part la méchanceté des hommes. Et tout cela collaborant arrive à faire le monde qui est le nôtre. Et donc, il faut effectivement, comme je le répète, beaucoup d'assaises intellectuelles, beaucoup d'études et beaucoup de maîtrise de soi pour arriver à aborder ce problème à l'intérieur du récit biblique. Je n'ai même pas dit « et restez juif », ça beaucoup le disent, okay, mais il reste quand même. Je veux dire « à l'intérieur du récit biblique ». Et donc, vous avez posé une question, elle reste question. Et je vous ai donné une réponse, elle reste réponse. Il faut beaucoup de temps pour les faire coïncider. Bien, eh bien, encore une question, s'il vous plaît.
Comment expliquer alors la phrase « Dieu qui l'a dans son mariage » ?
Elle est tout simplement fausse. Elle est tout simplement fausse. Je vais prendre un peu de temps encore pour vous répondre plus en détail. C'est une phrase prise dans les traductions. Et nous avons comme par hasard étudié cette question ce matin. Un d'entre vous l'avait posée. Oui. La phrase hébraïque dit que Dieu a fait l'homme Betzalmo. Or, et c'est répété dans deux autres formulations encore, dans le même ensemble de chapitres, Betzalem Elokim, Bara Urasa, suivant le verset. Or, on a pris l'habitude finalement, et sans doute, à l'origine, ce mot de image qui est dans les traductions, Dieu a fait l'homme à son image, avait sans doute le sens que je vais essayer de dire qu'il a en hébreu. Très souvent, j'ai eu cette expérience que des traductions qui, dans notre temps contemporain, sont inutilisables, rapportées au sens que ces mêmes langues avaient à leur origine, deviennent plus exactes. Que ce soit le français, l'anglais est toujours beaucoup plus proche du texte hébreu. Il y a sans doute des raisons pour cela. Celle que j'ai apprise, c'est que l'anglais classique s'est constitué à partir de l'anglais des traductions d'Amérique. Mais c'est une expérience que tous les éducateurs juifs ont. En anglais, c'est plus facile que dans une autre langue. Ce n'est pas une raison pour abandonner le français. Lorsque c'est rapporté dans le sens originel de la langue, c'est beaucoup plus lisible pour un hébreu. Or, je me répète simplement ce que j'ai dit ce matin dans la formule même. Je pense qu'il suffit de comprendre cela, que image ne signifie pas dessin. Il y aurait un modèle que l'on copie. Dessin écrit D-E-2-S-I-N. Mais tselem signifie dessin écrit à la fin E-I-N, un projet. Et plus exactement, ça signifie que Dieu a créé l'homme selon l'image qu'il s'est fait dans son projet de ce que sera l'homme. Nous sommes donc à l'image de l'homme. Pas à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de l'homme authentique, l'image que Dieu s'est fait de ce que doit être l'homme. Voilà, c'est finalement pas difficile à expliquer, mais c'est simplement pour dire qu'à travers cette traduction devenue approximative et imparfaite, énormément de faux problèmes se sont posés à la conscience théologique, qui sont inutiles lorsque on aborde le texte hébreu dans son sens originel. Vous trouverez dans Rashi une explication de Rashi qui va dans ce sens. En tout cas, je vous remercie pour ces études et nous nous reverrons quand Dieu voudra, et j'espère à Jérusalem. Bonne soirée.